Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour comprendre comment l'information est traitée dans notre cerveau, Claude Béroux et Vincent Grépon nous proposent dans leur livre « Petites mathématiques du cerveau » paru chez Odile Jacob en 2012, ils nous proposent de faire une corrélation avec l'écriture numérique de l'information. Alors j'ai le plaisir de recevoir l'un de ses auteurs, Claude Béroux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur à Télécom Bretagne, membre de l'Académie des sciences. Et vous êtes à l'origine des turbocodes qui nous servent aujourd'hui dans la téléphonie mobile, notamment la 3G et la 4G. Vous abordez d'ailleurs cette technologie en filigrane dans votre livre « Petites mathématiques du cerveau » et nous y reviendrons au cours de cette émission. Ouvrage qui, je le disais à l'instant, a été donc rédigé à quatre mains avec votre collaborateur Vincent Grépon, spécialiste du traitement de l'information et de la communication avec vous. Alors comment l'électronicien et informaticien que vous êtes, Claude Béroux, s'est intéressé au fonctionnement du traitement de l'information du cerveau ?
Oui, cela date maintenant de 5-6 ans en télécommunication, portée elle-même par la théorie de l'information, elle-même soutenue par les progrès de la microélectronique. Nous avons, ces 20 dernières années, obtenu des résultats, des progrès considérables dans l'écriture de l'information, sa compression, sa protection, son transport, son interprétation. Et les solutions qui nous sont arrivées ces dernières années, disons ces 15 dernières années, sont des solutions distribuées. Alors, c'est quoi le traitement distribué de l'information ? Et notamment le codage distribué. Plutôt que de considérer une énorme équation mathématique pour résoudre un problème donné, on peut, dans la plupart des cas, découper ce problème en petits sous-problèmes qui sont définis ou spécifiés par de petites équations mathématiques qui peuvent être résolues simplement, rapidement et localement, optimalement. Et c'est en faisant communiquer les différents processeurs qui s'occupent chacun des différents sous-problèmes, d'une manière donc à élaborer subtilement, on peut obtenir un résultat global qui lui-même est optimal. Donc un gain de simplicité considérable parce que le nombre de petits sous-problèmes à traiter est généralement limité. La complexité de chacun de ces sous-problèmes est elle-même très limitée et la somme en complexité reste quand même bien inférieure à celle qu'on aurait à considérer avec un unique problème porté par une énorme équation mathématique. Vous voyez, en fait, c'est diviser pour conquérir. Voilà. On a affaire à quelque chose qui en général est très très compliqué. Par exemple, en matière de codage correcteur d'erreurs, on avait affaire à des équations qui contenaient de plus en plus de variables, avec des algorithmes de décodage de plus en plus lourds à manipuler et à mettre en œuvre. Eh bien, le codage distribué, et plus généralement le traitement distribué, apporte donc une nouvelle vision de l'algorithmie, qui est effectivement celle de se diviser pour conquérir.
Et donc, vous pensez pouvoir utiliser ces techniques de traitement de l'information et les appliquer justement à notre cerveau. C'est un peu votre idée.
Cette manière, effectivement, de traiter des problèmes compliqués, et Dieu sait que le cerveau en est un spécialiste, donc cette manière de traiter des problèmes compliqués par une séparation bien pensée, enfin, disons, une multitude, une grande quantité de petits sous-problèmes, mais qui se lient presque tous entièrement, cette manière de faire nous semblait ressembler assez fortement à ce que le cortex pratique, à la façon dont il effectue ses opérations pour traiter des problèmes cognitifs de niveau supérieur.
Alors, dans les premières pages de votre ouvrage, coécrit avec Vincent Grépon, vous citez dans les premières pages Jeff Hawkins, qui, vous le précisez, était l'inventeur du Palm Pilot, qui depuis s'est orienté vers les neurosciences. Donc, je ne vais pas citer tout ce que Jeff Hawkins dit, mais juste une phrase. Et vous donc, vous le citez, « La plus grosse erreur est de croire que l'intelligence est fondée sur un mécanisme intelligent. » Donc voilà qui ne va pas forcément vous mettre bien avec les neuroscientifiques. Claude Béroux.
Oh, ils ne sont pas nécessairement en désaccord avec moi. Je pense, comme beaucoup d'autres, que la vie s'est appuyée sur des mécanismes élémentaires de grande simplicité pour assurer l'évolution des organismes et des espèces. Et ces lois-là, on ne les voit pas. probablement parce qu'elles sont cachées par des comportements chimiques et physiques de très grande complexité, sur lesquels d'ailleurs se penchent les neurobiologistes et les neuroanatomistes, et les neuroscientifiques en général. Ils portent leurs efforts principalement sur cette chimie et cette physique, et c'est vrai que la littérature en neurosciences est très riche, très abondante, mais malheureusement, pas encore, on a pu en tirer ces lois fondamentales qui, comme la règle de Hebb, dont nous parlons dans le livre également, est d'une grande simplicité, c'est vraiment élémentaire. Hein. Un neurone A qui s'active et qui systématiquement fait décharger un neurone B qui lui est connecté aura tendance à augmenter sa connectivité, son lien avec son lien avec ce neurone B. Voilà, il n'y a pas plus élémentaire comme loi physique que cette loi-là. Eh bien, il nous manque aujourd'hui 2-3 lois probablement aussi simple que celle-là, qui nous permettrait de définir l'architecture informationnelle du cerveau, c'est-à-dire comprendre les principes de son traitement informationnel et cognitif.
Dans justement cette architecture informationnelle du cerveau et des points communs qui pourraient être établis avec la partie, on va dire, télécommunication, qui est votre partie au départ, vous parlez donc de ce principe de redondance. Alors j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Quel est ce point commun de redondance entre le cerveau et puis la pratique des télécommunications?
Pour quelqu'un qui appartient à ma communauté scientifique, ce qui frappe d'abord dans le comportement ou dans les propriétés cérébrales, c'est la robustesse et la pérennité de l'information mentale. Alors c'est quoi l'information mentale déjà, puisque c'est le sous-titre de l'ouvrage, la théorie de l'information mentale? C'est tout simplement ce que notre cerveau a retenu ou sur le long terme. Par exemple, Elodie, votre numéro de téléphone mobile, vous le connaissez par cœur. Ou la table de multiplication, dont j'espère que vous ne l'avez pas oubliée depuis que vous l'avez apprise. 7 fois 7, c'est 49. Vous avez ce résultat qui est bien ancré dans vos connexions neurales. Je dis neurales parce que pour faire référence au système neural plus qu'au système neuronal, où il est plus question de composants élémentaires. Donc ce 7 fois 7 égale 49, la remémoration, vous la faites de manière automatique, mécanique. Il n'y a pas dans ce problème de remémoration, de subconscient, de surmoi, de peur, d'émotion. C'est vraiment mécanique, comme le ferait un ordinateur à qui vous demandez 7 x 7. Et cette information 7 x 7 égale 49, vous la garderez jusqu'à la fin de votre vie. Vous l'avez acquise très tôt et vous la garderez des dizaines et des dizaines d'années. Elle est robuste, hein, c'est 7 x 7 égale 49, ce n'est pas 50, ce n'est pas 51. Elle est durable, donc voilà, vous la garderez. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est toute la table de multiplication que vous avez apprise. C'est aussi toutes les fables de La Fontaine, les chansons, le nom de jeune fille de votre maman, etc. etc. C'est plein de choses, des tas d'informations qui servent ensuite au cerveau pour construire ces processus élaborés. Mais il y a d'abord l'information mentale que ce cerveau, et on pense que l'information, c'est surtout le néocortex qui s'en charge. Donc il y a cette information que le cerveau doit stocker, mémoriser quelque part, et de façon robuste et durable. Ce qui signifie, pour répondre précisément à votre question, que la redondance est nécessaire. Il n'existe pas de mécanisme ou de procédé physique, à ma connaissance, qui permette la robustesse. La robustesse, c'est quoi? C'est face à une agression de type physico-chimique, donc une altération de l'information, elle va pouvoir se réparer, se retrouver quand même. C'est face à un oubli, avec un petit effort, on va quand même par des liens pouvoir compléter donc à partir de ce qui a été fourni. Je ne connais aucun procédé physique qui ait cette aptitude à l'autocorrection ou à la réparation des effacements ou des erreurs sans qu'il y ait de redondance. C'est quoi la redondance? Eh bien, c'est ce qu'il y a en plus de l'information minimale. Ce n'est pas de la simple répétition.
Ça peut être une association d'idées?
Alors, en télécommunication, cette redondance, nous l'utilisons massivement, nous l'expliquons dans le livre, sous forme de synonymes. Bon, je reprends l'exemple du livre. Si, pour bien se faire comprendre, on veut répéter matin, eh bien, matin, ça peut être compris comme matin malin. Et du côté du destinataire, il ne peut pas faire de choix. Il ne sait pas si c'est matin ou malin qui a été mis.
Oui, les erreurs ne peuvent pas être corrigées, en fait.
Dans ce cas-là. Mm-hmm. Hein, bon, on pourrait imaginer que ça puisse se répéter plusieurs fois, mais à ce moment-là, ça commence à coûter en énergie et puis en ressources. En revanche, c'est beaucoup plus futé, justement, beaucoup plus intelligent d'accompagner le message, donc matin, par un synonyme qui serait aurore, par exemple, matin aurore. Hein. Et la propriété lexicographique qui est la suivante, deux mots qui sont voisins dans une langue donnée, deux mots qui sont voisins dans leur écriture, on peut peu de risque d'avoir deux synonymes qui sont eux aussi voisins. permettra donc au récepteur de corriger, de retrouver le bon duo message d'origine et synonyme redondant. Donc c'est comme ça qu'on fait dans les télécommunications et de manière un peu plus compliquée parce que justement on le fait aujourd'hui de manière distribuée, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un seul synonyme, on en utilise plusieurs qui sont en général très 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 courts parce qu'on veut toujours économiser l'énergie de transmission. Donc c'est ce que nous croyons être aussi la façon de faire du néocortex dans sa mémorisation, utiliser. Alors,
comment ça se traduit justement pour le cerveau, donc
nous, cette redondance. Nous démontrons dans le livre, et c'est notre point de départ, disons, de nature mathématique, nous démontrons que n'importe quel graphe, c'est-à-dire quel réseau, est capable d'offrir des propriétés de redondance gratuites. Il n'y a pas besoin de rajouter du matériel ou de rajouter des informations. Elles sont déjà présentes, inhérentes au réseau, et il suffit de l'organiser de telle sorte à pouvoir les exploiter. Donc cette redondance est de nature graphique. C'est aussi l'une de nos hypothèses que le néocortex est très récurrent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans le graphe correspondant. Il y a beaucoup de chemins qui vont et qui viennent comme ça, et donc qui font apparaître beaucoup de cycles et de ce qu'on appelle en théorie des graphes des clics, c'est-à-dire des sous-ensembles de nœuds qui sont entièrement interconnectés. Entre parenthèses, cela signifie que nous proposons de distinguer nettement deux familles de neurones dans l'encéphale. Les neurones probablement plus anciens dans l'évolution qui n'ont pas vocation à conserver l'information. Typiquement les neurones sensoriels, moteurs ou neurones relais. Et puis l'autre famille qui est celle de ce néocortex qui est apparu dans l'évolution en dernière étape et qui serait apparu de façon grosso modo aléatoire avec des connexions également non orientées, sans but précis et qui aurait fait apparaître un graphe fortement récurrent et qui nous permet, nous, un peu mathématiciens, d'utiliser les outils de la théorie classique des graphes.
Et donc notre mémoire se base sur des associations.
Alors ensuite, effectivement, on peut voir ce néocortex comme étant un réseau dont les nœuds, qui ne sont pas les neurones, nous l'expliquons aussi, mais plutôt les microcolonnes, c'est-à-dire des groupes de neurones qui se reproduisent de manière à peu près homogène sur toute la surface du néocortex. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on peut le dire. Et ces nœuds, donc matériellement représentés par les microcolonnes, peuvent être assimilés à des quantas d'informations. Alors un quantum, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas décomposable. Alors nous y travaillons actuellement beaucoup, c'est l'un de nos verrous à lever. C'est quoi un quantum d'information dans le cerveau? Quelque chose qui peut être représenté par un nœud, le nœud d'un graphe. Et ces nœuds, vous avez entièrement raison, associés à travers des sous-motifs graphiques, représentent donc par association, à travers les liens classiques d'axone à synapse. Donc ces associations sont ce que le cerveau utilise pour se souvenir du titre d'un livre, du nom d'un chanteur ou de la rivière qui coule à Paris.
L'exemple qui pourrait comme ça venir à l'esprit, c'est une odeur qui, d'un seul coup, va nous faire l'odeur de la colle, qui va nous faire remémorer, par exemple, le cadre de l'école.
C'est la Madeleine de Proust, oui. C'est toutes sortes de choses. On peut dire que, effectivement, ça pose d'énormes questions. Tout est relié à tout dans le cerveau. Après, c'est une affaire d'architecture et de contrôle. Un exemple que j'utilise pour montrer ce que nous avons à dégager comme architecture ou comme contrainte d'architecture dans le néocortex. Si je vous dis, Élodie, si je vous demande le nom d'un personnage lié à livre, couleur, Asie, normalement la réponse c'est Mao Tse-tung et son petit livre rouge. Alors il arrive qu'on ne réponde pas. Il arrive qu'on réponde, voilà un problème cognitif complexe. J'ai très peu d'informations au départ. Puis je peux imaginer qu'on compute, surtout si on n'est pas préparé. Mais bon, certaines personnes trouvent la réponse après beaucoup d'efforts. Ça, c'est typiquement un problème d'association-dissociation. Alors, donc ça, c'est une des grosses propriétés qu'on cherche à obtenir de nos modèles de réseau. Comment organiser un graphe porté par des microcolonnes qui ont certaines propriétés de connectivité et aussi d'inhibition sur des liaisons simples, si possible binaires, pour lui permettre à ce réseau d'être capable à la fois d'associer et de dissocier. Comme un panier, là, que je vous présenterai, qui contiendrait des fruits et des légumes, dont je vous demanderai de séparer le contenu dans ces deux catégories. Ben, vous sauriez mettre les patates de côté ou les carottes et puis les pommes et les poires d'un autre. Là, vous avez dissocié, mais vous avez associé aussi poires et pommes. Si ensuite je vous demande de dissocier à nouveau les fruits, vous allez mettre de côté les poires et puis de côté les pommes. Ce travail d'association-dissociation, c'est un travail cognitif complexe. Nous n'avons pas encore de réponse architecturale à ce grand verrou à lever, mais je pense que c'est l'affaire de quelques années. Sur la base d'hypothèses très simples, le néocortex est un graphe dont les sommets sont des microcolonnes corticales et dont les connexions sont purement binaires, c'est-à-dire 0 ou 1, suivant qu'elles n'existent pas ou qu'elles existent.
Alors, solutions purement binaires, réseau, micro-colonne, tout ça fait penser un peu au système ordinateur. Alors, les neuroscientifiques disent que justement, le cerveau n'est pas un ordinateur. Il y ressemble comme ça à première vue, mais que ce n'est pas un ordinateur. Et vous, vous expliquez que la mémoire cérébrale est numérique. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus justement sur ce que pensent les neuroscientifiques et puis votre position ?
Bon, nous avons un certain nombre d'arguments pour effectivement émettre l'hypothèse que la mémoire cérébrale est numérique. On n'en a pas encore la preuve, donc ça reste encore à démontrer. Mais nous travaillons aussi avec des biologistes sur ces hypothèses-là et nous essayons de corroborer nos spéculations par des observations. Alors, effectivement, l'ordinateur est très différent du néocortex, mais pas si différent que cela. La principale distinction que l'on peut faire, c'est que dans un ordinateur, programme et données, c'est-à-dire jeu d'instructions et données, sont séparés. Les données sont rangées dans un disque dur, et puis ensuite dans une mémoire de travail, une mémoire vive, une mémoire cache, et puis il y a un programme suivant, donc le schéma classique, qui fait dérouler un certain nombre d'instructions. Et ces instructions sont indépendantes des données, et les données sont indépendantes du jeu d'instructions. Dans le cerveau, tout est intriqué. Données et processus sont portés par le même matériel. Alors, il se trouve qu'en informatique, cette notion de programmation portée par les données n'est pas inconnue. En anglais, on appelle ça « data-driven programming ». C'est un champ d'investigation en informatique qui est plutôt bien investigué aujourd'hui. Et c'est aussi ce sur quoi nous nous appuyons pour essayer de développer ce quasi-ordinateur cortical, mais dans lequel, effectivement, on n'a pas le droit de dire, voilà, ici, il y a un processeur qui va traiter les données parce que ce processeur, il est piloté par un organe de contrôle qui va lui faire dérouler des instructions. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, aussi, un grand verrou à lever, oui.
Il est question aussi en filigrane dans votre ouvrage d'intelligence artificielle, un terme sur lequel aujourd'hui beaucoup de chercheurs travaillent. Je crois même que vous aussi, vous avez notamment des crédits alloués par l'Union européenne pour travailler sur ces questions-là. Que peut-on dire aujourd'hui de cette fameuse intelligence artificielle et des travaux que vous êtes en train de mener actuellement ?
Je vais commencer plutôt par la perspective et puis ensuite je vais faire le contraire de ce qu'on fait habituellement, la perspective et ensuite je reviendrai vers l'histoire. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui, et pas toujours illuminés, disent que le 21e siècle connaîtra une révolution considérable, jusqu'alors jamais rencontrée dans l'évolution de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la singularité technologique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le moment que je situe en 2040, je pense, auquel l'homme sera capable ou aura été capable d'inventer une machine plus intelligente que lui. Or, l'homme est capable d'améliorer les choses. Donc si la machine est encore plus intelligente que l'homme, la machine sera encore plus en mesure de s'auto-améliorer, de se perfectionner par elle-même. Or, une machine, ça peut travailler à des vitesses qui sont bien supérieures à celles de l'homme. L'homme est limité par ses capacités physiologiques. Le signal nerveux ne se propage pas à la vitesse de la lumière, alors que la machine électronique, elle, peut calculer très, très, très vite, développer des processus calculatoires ou cognitifs beaucoup plus rapides. Donc, imaginez une machine plus intelligente que l'homme qui soit 1000 ou 10 000 ou 100 000 fois plus rapide. Donc, ça veut dire que c'est un point dans l'exponentiel du progrès, là, qui, d'ailleurs, qu'on appelle singularité, qui va faire émerger, disons, un nouveau monde pour ce qui concerne l'être humain, qui pourra enfin bénéficier d'une aide intellectuelle pour affronter et résoudre des problèmes de toute nature. Hein. On connaît
les robots deviendront nos conseillers.
Alors, il ne s'agit pas de robots. Je n'ai jamais parlé de robots. Je préférerais HAL dans 2001, Odyssée de l'espace, vous voyez. C'est qu'une machine, hein, c'est un computer qui n'a pas envie de se déplacer, qui n'a pas envie de faire du café, mais qui réfléchit beaucoup, 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 hein, et qui serait capable d'apporter des réponses à des mutations de virus, à de nouveaux problèmes énergétiques, à des questions fondamentales de nature religieuse ou philosophique. Aujourd'hui, nous en faisons la démonstration dans le livre. La microélectronique serait capable, si on en connaissait l'architecture et les principes de cognition, serait capable d'offrir à l'humanité une machine à peu près équivalente à 10 cortex humains. 10. Aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera 100.
Est-ce que les capacités s'additionnent quand...
Alors, je n'ai pas la réponse, mais bon, le néocortex humain est organisé en 6 couches de neurones. Bon, pourquoi pas imaginer un cortex avec 20 couches? Ça pourrait offrir des propriétés très intéressantes en termes de communication et d'association, par exemple, vous en parliez, ou de combinaison, ou d'analogie. Alors là, il s'ouvre des perspectives. Bon, on ne peut pas en parler parce que je ne vois pas trop ce que ça peut donner pour l'instant. Pour le moment, nous en sommes à la compréhension de la nature informationnelle du néocortex. Nous sommes obligés d'élaguer considérablement, c'est-à-dire d'éliminer une grande partie de toute la complexité physico-chimique qui fait fonctionner cette grande quantité de neurones pour arriver à un schéma le plus simple possible d'architecture. Ce n'est pas parce qu'on a élagué que c'est encore plus simple. L'architecture informationnelle du cerveau devra faire apparaître des propriétés cognitives fortes. J'ai parlé d'association et dissociation, mais aussi la pertinence, l'attention, la vigilance, en fait, toutes sortes de choses qui gouvernent un peu notre vie au quotidien. Voilà, on en est là pour l'instant. Maintenant, le reste, je ne dirais pas que c'est de la science-fiction, mais c'est, pour le moment, c'est un peu trop compliqué compte tenu de la limitation de nos capacités de réflexion.
Alors, pas des robots, des computers, comme vous dites, des ordinateurs, mais qui pourraient à terme répondre à tous les problèmes que nous nous posons, en fait, et qui auraient à chaque fois une solution mathématique, en fait, qui pourrait répondre, par exemple, à toutes nos questions d'ordre économique actuellement, un pays en crise. L'ordinateur pourrait, par exemple, résoudre des questions liées à la crise économique, par exemple.
Oui, il pourrait. Je prends un exemple pour essayer d'illustrer les enjeux et ce que pourraient nous apporter ces machines. En une vie, aujourd'hui, un être humain, aussi formé soit-il, aussi instruit soit-il, en une vie ne peut pas retenir tout de ce que les bases de données ou les encyclopédies en ligne comme Wikipédia ou d'autres peuvent offrir comme connaissances.
À moins d'avoir un syndrome d'Asperger.
Oui.
Et encore.
La machine dont je parle, aujourd'hui, toujours avec ce que la microélectronique peut nous offrir, pourrait le faire en un jour. En un jour, elle serait capable d'aller consulter toutes les encyclopédies en ligne, les pages Internet. Mais on n'a pas encore, malheureusement, mais ça c'est effectivement l'un des gros enjeux de l'intelligence artificielle, on n'a pas encore bien spécifié le concept de pertinence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin effectivement d'aller voir et qu'est-ce qu'on a besoin de mémoriser? Est-ce que ce que l'on vient de voir sur telle ou telle encyclopédie peut servir dans le futur à autre chose? Cette notion de pertinence qui est d'ailleurs aussi, qui commence à devenir très importante dans les télécommunications, est l'un des concepts fondamentaux à considérer dans la conception de machines pensantes, en fait de machines intelligentes.
Mais Google, déjà, je crois, a déjà mis en place un système.
Oui, c'est bon, ok. Il faut vraiment bien choisir ses mots-clés pour avoir un résultat pertinent.
Justement. Mais l'idée est là.
Mais l'idée est là, oui. Ici, là, je viens de marcher de la station de métro jusqu'au Quai Conti. J'ai marché. Je serais incapable de vous dire les commerces que j'ai rencontrés, enfin que j'ai vus sur le bord des rues. Combien de restaurants ai-je vu? Combien de cafés, de librairies? C'était pas pour moi pertinent parce que j'étais en train de réfléchir à notre entretien et que seul comptait pour moi ce que j'allais pouvoir dire. Alors que si on m'avait demandé avant de quitter la station de métro, tu feras bien attention à ce que tu vas voir comme restaurant parce qu'il va falloir comment je sois, ça aurait été complètement différent. Voyez. Donc tout ça, c'est du très haut niveau cognitif. Je pense que nous, qui avons contribué un peu à porter, parfois beaucoup à porter aux sciences des télécommunications, nous avons aussi un peu notre mot à dire dans ces différents schémas, dans ces différentes solutions architecturales qui restent à découvrir.
Je vous remercie, Claude Béroux. Alors, tous ces éléments, on peut les retrouver dans le livre que vous avez coécrit avec Vincent Gripon, « Petite mathématique du cerveau, une théorie de l'information mentale ». On aurait pu encore vous écouter très longtemps sur ce sujet passionnant. C'est un plaisir de vous recevoir. Mais en attendant, on peut lire votre livre « Petite mathématique du cerveau, une théorie de l'information mentale » paru aux éditions Odile Jacob en 2012. Merci à vous, Claude Béroux, d'être venu nous voir et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.